7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Il vous est peut-être déjà arrivé de vous retrouver à l'école désarçonné devant un problème de maths, incapable de comprendre ce que l'on vous demandait, ni surtout comment vous pourriez bien en trouver la solution sans répondre au hasard. L'échec en maths nous fait questionner souvent notre intelligence, notre capacité à réfléchir, avec l'impression qu'il nous manque une case, qu'on ne tourne pas rond, qu'il nous faudrait avoir un raisonnement plus carré. Alors vient ce verdict glaçant, posé par nous-mêmes, par nos parents, parfois même par nos enseignants. Nous voilà partie intégrante des nuls en maths, catégorie damnée de la population. Alors, comment ne pas se décourager? Quel intérêt peut-on aussi trouver à dompter les mathématiques? Avec nous, pour en parler aujourd'hui, des amateurs de chiffres, des vrais, ils aiment les faire valser et ont la passion contagieuse. Bonjour Stella Barouk.
Bonjour.
Vous êtes professeur de maths, chercheuse en pédagogie des mathématiques. Vous publiez le livre Les chiffres, même pas peur. On a bien fait de vous inviter. Bonjour Mickaël Launay.
Bonjour.
Vous êtes mathématicien et créateur de la chaîne Micmat sur YouTube. Vous avez aussi publié le grand roman des maths. Stéphane Seret, bonjour.
Bonjour.
Professeur des universités, vous êtes aussi président de la Société mathématique de France et vous êtes avec nous depuis les studios de France Bleu Gironde à Bordeaux, dont on remercie les équipes techniques. Nous serons aux lignes ainsi avec un jeune champion ivoirien qui, à 16 ans, a remporté les Olympiades panafricaines de mathématiques, rien que ça, à Rabat. C'était cette année. Et vous, les voisins, les voisines, comment vous sentez-vous par rapport aux chiffres, aux multiplications, divisions, aux pourcentages? Si tout cela vous fait peur, pourquoi donc? Essayez-vous aussi de vous réconcilier avec les mathématiques. Et puis, si vous êtes passionné par cette discipline, car il y en a, racontez-nous ce que vous aimez dans les maths. Vous nous appelez dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71. Et comme toujours, vous nous écrivez sur les réseaux sociaux. Alors déjà, vous nous écrivez sur Facebook, les voisins, le sujet ne vous laisse pas indifférent, bien au contraire. Philippe nous écrit depuis N'Djamena au Tchad. « Lorsque j'étais au collège, les mathématiques me faisaient trop peur, je ne comprenais rien du tout à tous ces X et Y. Un jour, j'ai eu 1 sur 20 et mes amis se sont vraiment moqués. Alors ce jour-là, je suis rentrée et j'ai commencé à prendre des cours particuliers. Dieu merci, j'ai eu le bac avec 14 sur 20. » Les progrès sont donc possibles, tant mieux. Broula Ekone est au Mali, il nous écrit « Depuis l'école primaire, je déteste les maths car je ne sais pas ce qu'elles nous apportent. Je me sens mieux en lisant un roman qu'en résolvant une équation. » Je vous lis aussi le message de Fataou Abdoul à Lomé, au Togo. « En maths, une erreur minime nous emmène droit dans le mur. La peur face aux maths est souvent due à un manque de confiance, à l'angoisse de se retrouver avec une mauvaise note. Alors pour rassurer les élèves, je pense qu'il faudrait revoir la manière dont les cours sont dispensés et puis changer le regard qu'on porte en général sur les maths. » Alors certains d'entre vous, les voisins, heureusement, ont la bosse des maths, comme on dit. C'est le cas d'Elisabeth à Montréal. Ce que j'aime avec les maths, c'est l'objectivité. Contrairement à la philosophie, par exemple, où tu sors de l'examen en pensant que tu as réussi et quand on te rend ta note, tu vois 2 sur 20 hors sujet. Modibo est plus cinglant. Il nous écrit depuis Sévaré. Au Mali, ce sont uniquement les paresseux qui détestent les mathématiques. Et puis, Abdoul nous écrit depuis Tombouctou. C'est uniquement en mathématiques que les formules, les postulats et les théorèmes sont universels. C'est ça qui fait leur beauté. Pourquoi les maths nous font-elles si peur, Stella Barouk?
Vaste sujet. Je crois qu'il y a, si vous voulez, des peurs dans les cursus scolaires qui sont des peurs naturelles. C'est-à-dire que la manière dont les choses se passent dans une société telle que la nôtre et dans beaucoup d'autres, c'est transmettre un savoir, être jugé sur la façon dont ce savoir est reçu par ceux à qui il est destiné. Donc, avant une composition de géographie ou d'histoire, on a peur de pas se souvenir, de pas arriver à retrouver des idées, etc. Bon, très bien. Eh bien, en mathématiques, ça a quand même des spécificités. C'est que depuis de toute éternité, réussir ou ne pas réussir en mathématiques, bon, ça mobilise énormément de choses. En effet, de la mémoire, mais surtout aussi un rapport de possibilité de chercher, de faire face à quelque chose dont on n'a pas exactement fait le même exercice en classe, etc. Eh bien, donc, encore une fois, ce qui est très spécifique aux mathématiques, c'est que ça met tout de suite en jeu l'intelligence. Mmh. On va supposer, si ça ne marche pas pour vous en mathématiques, que, bon, comme on dit vulgairement, vous avez une case en moins. Et ça, c'est terrible. C'est terrible pour soi, c'est-à-dire c'est affectivisé d'une manière beaucoup plus grave que pour l'histoire ou la géographie, où on vous dira, vous n'avez pas appris vos leçons, ou etc. Bon. Et c'est beaucoup plus grave d'un point de vue de la socialisation d'un enfant, parce que c'est devenu, on le sait, malheureusement, un instrument de sélection depuis bien longtemps maintenant.
Michael Launay, vous êtes d'accord ?
Je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que les maths sont hyper valorisées dans le système scolaire. Si on ne réussit pas dans d'autres matières, c'est moins grave. En mathématiques, tout de suite, ouais, voilà, il y a la notion d'intelligence, c'est-à-dire que les maths sont une mesure de l'intelligence, alors qu'en fait, on peut très bien ne pas être très fort en maths, ne pas avoir d'appétence pour les mathématiques a priori, et être très intelligent dans d'autres choses. Et donc, effectivement, ce côté-là, et puis voilà, le fait que ce soit une discipline de sélection, rater un devoir de maths, tout de suite, c'est très angoissant, et c'est plus cette angoisse vis-à-vis des mathématiques, parce que il peut y avoir des gens qui sont très bons en maths et qui ont un goût très prononcé pour les maths, c'est très bien. Il y en a qui vont avoir moins de goût pour les maths, c'est pas très grave, ça n'empêche pas d'avoir une culture mathématique, d'avoir d'avoir des connaissances et de prendre du plaisir à faire des maths, même sans devenir après mathématicien, devenir ingénieur ou faire un métier dans lequel il y aura beaucoup de maths. Voilà, et il faut faire attention un peu à ces deux choses-là. Mmh. Souvent, le système scolaire est très bon, en tout cas en France, pour les meilleurs. Mais il ne faut pas laisser de côté tous les autres.
Un nombre de personnes. Stéphane Serret, on n'a pas peur des maths quand on est tout petit. C'est ensuite que se développe cette peur.
Alors, oui, peut-être juste pour dire qu'effectivement, la peur des maths, enfin répondre à cette question de la peur des maths, c'est un exercice un petit peu à contre-emploi pour un mathématicien, mais ça ne l'est pas quand on est enseignant, parce qu'effectivement, un des rôles de l'enseignant, c'est d'essayer de faire en sorte que nos étudiants, nos élèves dépassent les blocages ou les petites peurs qu'il peut y avoir, qu'ils peuvent rencontrer. Alors effectivement, quand on est petit, cette peur des maths est en tout cas moins prégnante, puisque les enfants sont souvent avides de connaissances et sont souvent confrontés à l'inconnu. Et l'apprentissage des choses abstraites, la confrontation à des concepts mystérieux et nouveaux, est finalement quelque chose d'assez quotidien pour les enfants. En revanche, ce qui se passe, c'est que les mathématiques entretiennent, permettent, au fur et à mesure de la formation en mathématiques, on acquiert des connaissances, et comme le disait Stella Baroukh, et on a de plus en plus de connaissances à maîtriser. Et non seulement on demande de maîtriser ses connaissances, mais on demande de les mettre en œuvre. Et ça, c'est un processus assez compliqué avec lequel tout le monde n'a pas autant d'aisance. Et plus l'âge avance, plus on demande de l'autonomie, de l'indépendance et des initiatives aux enfants, notamment à travers l'exercice de mathématiques qui effectivement ne nécessite pas seulement une restitution un peu organisée des connaissances, mais vraiment une mise en œuvre, une démarche scientifique qui demande un effort, effectivement.
Et c'est cette autonomie qui peut faire peur. Je vous propose d'accueillir tout de suite un voisin, Nicodème à N'Djamena. Bonjour Nicodème.
Oui, bonjour Charlie, bonjour à votre invité, bonjour à tous les autres derrière ici.
On vous écoute, alors je crois que vous n'avez jamais vraiment aimé les maths.
Vraiment, j'étais parmi les élèves qui n'aimaient pas du tout la mathématique. J'avais vraiment peur de mathématiques. Une fois le professeur rentrait, moi, je sortais. Et j'avais raté deux fois mon bac à cause de mathématiques. Et chaque fois quand je prends mon relevé d'échec de mathématiques, du bac, dans d'autres mathématiques, j'avais des moyennes. Et en mathématiques, à chaque fois, zéro. Donc, 2015, j'ai raté mon bac. 2016, j'ai raté mon bac. C'était en 2017, cette année, que j'avais obtenu mon bac. Donc, j'ai dit merde en mathématiques, je me suis concentré, j'ai donné ma volonté. Ça a réussi. J'avais une belle note, 18 sur 20. Sinon, au début, j'étais vraiment...
18 sur 20 en maths, hein, au bac.
Oui, aux maths.
Mais vous avez réussi en fait à comprendre les maths, vous êtes entraîné.
Oui. Finalement, j'ai fini par comprendre. D'abord, on a formé un groupe dès la rentrée, un groupe de 5 personnes. J'ai vraiment insisté, j'étais devenu le chef de groupe. J'ai devenu un meilleur répétiteur en maths. J'avais vraiment compris la mathématique et j'ai finalement fini par comprendre et d'obtenir mon bac avec une belle note en mathématiques. Et vraiment, c'est de la volonté, quoi.
C'est de la volonté.
De se concentrer. Oui, c'est ça.
Il ne faut pas décrocher.
Un de mes amis, oui, Abdelkir Ousmane Reke, il m'a vraiment aidé là-dessus. Et j'ai fini par l'obtenir. Sinon, j'avais vraiment peur de mathématiques.
Merci Nicodème pour ce témoignage, Michael Launay. On voit qu'on peut réussir, même si on a eu l'impression de décrocher un moment des mathématiques.
Alors c'est ça. Puis alors là, en plus, il y a l'enjeu qui est l'examen, qui à un moment donné, on doit réussir. Et puis on essaye.
Oui, parce que si on a un sur 20 au bac, c'est compliqué.
Cet enjeu peut être parfois paralysant. Et puis après, il faut voir aussi ce que ça veut dire réussir. Parce que c'est vrai que je fais souvent des ateliers avec des jeunes qui vont passer le bac, qui sont des séances de tutorat, etc. Et on voit, même parmi ceux qui ont des bonnes notes en maths, on voit deux catégories. C'est-à-dire, il y a ceux qui ont des bonnes notes en maths et qui comprennent vraiment bien ce qu'ils font. Et puis après, il y a aussi ceux qui, à un moment donné, vont réussir à avoir des bonnes notes parce qu'ils arrivent à avoir des automatismes, parce qu'ils arrivent à reproduire de manière systématique, mais sans vraiment comprendre.
Qui peuvent être scolaires, comme on dit, et pas forcément comprendre ce dont
il
s'agit.
Pour tel type de problème, il suffit d'appliquer telle méthode et on peut résoudre telle équation sans même vraiment comprendre ce qu'est une équation. Et ça, c'est dommage, parce que même si on y arrive et que c'est toujours gratifiant d'avoir une bonne note, eh bien, on ne prend pas autant de plaisir et c'est vraiment dommage d'être dans ce cas de figure.
Stella Abarouk, vous qui donnez des cours aussi à des élèves qui ont des difficultés en maths, que vous disent-ils? Que vous racontent-ils de leur rapport à cette matière?
Alors, je crois qu'il y a énormément de choses à dire avec tous les témoignages qu'on vient d'avoir et ce que vient de dire Michael. Et ce que disait M. Soret, qui est extrêmement juste, c'est que les mathématiques ont quand même une spécificité, c'est leur verticalité. C'est-à-dire que quand vous êtes au collège, eh bien, vous êtes supposé savoir un certain nombre de choses. Quand vous êtes au lycée, vous êtes supposé savoir un certain nombre de choses que le collège vous a transmises. Bon. Et si, au départ, les propositions de savoir qu'on fait aux enfants n'ont pas de sens pour eux, c'est très vite que s'installe une méfiance, que s'installe une peur, parce que... si vous voulez, pardonnez-moi de citer mon premier livre, Échec et maths, qui date de 73. Depuis ce temps-là, en effet, je suis confrontée à des demandes de toutes sortes à partir de gens qui, justement, ne vont pas bien. Si vous voulez, je suis un peu la spécialiste de gens qui ne vont pas bien en mathématiques. Et donc, je me suis beaucoup, beaucoup interrogée sur la question. Et on me dit aujourd'hui des choses que j'ai vues et revues et re-revues depuis plus de 40 ans.
Rien n'a changé.
C'est-à-dire la peur des enfants, qui n'a aucune raison d'être. Parce qu'effectivement, comme il a été dit tout à l'heure, ils sont ouverts, ce sont, comme on dit très souvent, des éponges. Hein. Ils vous posent des questions. Ils sont passionnés par c'est quoi 1000, c'est quoi 1 million, c'est quoi 1 milliard. Et grâce à vous, par exemple, 7 milliards, eh bien, ils entendent ça et ça leur parle. Ça leur parle si on dit, bon, ben, c'est la population de la Terre. Savoir à quoi ça correspond exactement, ils n'en savent rien, ça devient poétique. Bon, eh bien, l'histoire on m'a demandé dans un institut médico-pédagogique de venir voir les enfants, et il y en a un qui était interrogé par moi, supposé pouvoir rendre compte de son niveau. Et j'ai raconté quelque part, je ne sais plus où, que quand je suis partie, la trace de sa main était une flaque d'eau, tellement qu'il avait eu peur.
L'angoisse totale.
Et aujourd'hui, pardonnez-moi de le dire, mais des enfants de CP pleurent. En mathématiques, ce sont des témoignages que j'ai tous les jours. Donc, il faut vraiment se demander pourquoi des enfants qui ont une tête qui marche merveilleusement, normalement, eh bien, pourquoi ont-ils peur des mathématiques de façon précoce?
Les voisins, les voisines, que vous inspirent les mathématiques? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins, hein?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Et nous sommes en ligne avec Diderot à Yaoundé. Bonjour Diderot.
Bonjour Sally, bonjour à tous les voisins.
On vous écoute.
D'accord, donc mon histoire d'amour avec les mathématiques n'a pas duré longtemps parce que aujourd'hui, les mathématiques ne m'inspirent pas grand-chose. Je suis arrivé au secondaire avec la volonté d'apprendre les mathématiques et en classe de 6e et 5e, ça allait bien. Mais lorsqu'on arrive en 4e, il y a une grève chez nous au Cameroun des professeurs de matières scientifiques. Et ils ont décidé, au courant de cette grève, d'attribuer la note de 20 sur 20 à tous les élèves. Donc du coup, on ne pouvait plus apprendre les mathématiques parce que de toutes les façons, on allait avoir 20 sur 20. Donc, et ça a duré toute l'année scolaire.
Donc ça vous a pénalisé plus tard.
Effectivement, la 4e étant la base, on l'a perdu puisque dès la classe de 3e, au brevet, j'ai eu 4 sur 20 en mathématiques, même comme j'ai eu le brevet. Et surtout que cet épisode a fait que je ne travaillais plus en maths et j'ai développé, je ne sais pas, un blocage psychologique et je me suis dit que les mathématiques étaient dures. Donc depuis ce temps, je n'ai plus jamais appris les mathématiques et j'ai eu le bac avec 2 sur 20 en mathématiques. Aujourd'hui, franchement, les mathématiques, moi, ça ne m'inspire rien. Je n'aime pas les mathématiques. C'est X plus X qui font des... Je ne veux même pas comprendre. Donc, dans ma tête, je me suis bloqué et j'ai développé, comme je l'ai dit, des anticorps anti-mathématiques. Donc, je ne veux rien comprendre de ces choses-là.
Des anticorps anti-mathématiques. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Diderot?
Je suis professeur d'espagnol, puisque après, étant donné que je me suis rendu compte que les mathématiques, ce n'était plus mon affaire, j'ai viré vers la série littéraire. Donc, je me suis intéressé plus à l'anglais, au français, espagnol et la philosophie plus tard en terminale.
Et pas aux mathématiques.
Effectivement, j'ai préféré miser sur les matières littéraires et j'ai laissé les mathématiques de côté parce que je me suis dit que ce n'était pas mon affaire de toute façon.
Merci Diderot pour ce témoignage. Stéphane Serret, est-ce que vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit, au parcours de Diderot avec les mathématiques?
Bon, c'est un parcours individuel, alors c'est tout à fait respectable que quelqu'un qui ne se sente pas d'affinité avec les mathématiques choisisse une autre voie. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu des maths en tant qu'outil de sélection, outil qui pouvait faire peur. Là c'est ce qui était décrit, c'est une situation un peu différente. Ce qu'il faut bien comprendre, est-ce que peut-être votre auditeur a un petit peu manqué, mais à cause de sa, la situation
des multiples grèves touchent malheureusement grèves, de nombreux
c'est
systèmes
que,
scolaires.
En réalité, la formation en mathématiques, c'est... Les professeurs de mathématiques ne cherchent pas à former des mathématiciens. On cherche à faire en sorte que les étudiants ou les élèves que l'on a, finalement, apprennent la démarche scientifique, puissent être capables de développer des raisonnements, puissent mettre en œuvre différents concepts les uns avec les autres dans un ordre qui permet de résoudre des problèmes. Et puis il y a aussi toute cette capacité à modéliser des problèmes sous forme d'équations, ou en tout cas à modéliser des problèmes, c'est-à-dire... extraire d'un problème les questions importantes et ensuite les résoudre. Et cette capacité-là, en réalité, bon, alors effectivement, c'est beaucoup en mathématiques qu'on l'apprend, on l'apprend aussi dans les autres sciences, évidemment, mais c'est ça qui peut être exporté.
Oui.
Dans tous les autres domaines scientifiques et aussi
et ailleurs,
en littérature.
En fait, les maths nous servent dans la vie adulte et pas seulement si on veut devenir mathématicien. Stéphane Serret, Mickaël Launay, Stella Baroque, vous restez avec nous. On vous retrouve juste après le flash d'infos sur RFI. Nous parlerons entre autres de vidéos YouTube, de l'apprentissage de chiffres avec les doigts et même des Olympiades panafricaines de mathématiques remportées par un jeune prodige ivoirien. Les voisins, les voisines, vous continuez de nous appeler surtout au 33 1 84 22 71. 71. À tout de suite dans 3 minutes.
Hey. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez pour un sujet éducation, comme chaque vendredi. Alors sortez vos calculettes, si ce n'est pas encore fait, nous parlons de l'arithmophobie. Vous connaissez ce mot, c'est la peur des maths, ou quand les chiffres deviennent synonymes de sueur froide. Alors que le ministre français d'éducation, Jean-Michel Blanquer, lance une grande réflexion sur l'enseignement des mathématiques, mission confiée au célèbre mathématicien Cédric Villani, également député La République En Marche dans l'Essonne, on se demande aujourd'hui comment réconcilier les élèves avec une matière qui les suivra tout au long de leur scolarité, mais aussi de leur vie. Et puis, que peuvent nous apporter les chiffres et les algorithmes? Avec nous, pour en parler, Mickaël Launay, mathématicien, créateur de la chaîne Micmat sur Internet. Vous publiez le grand roman des maths chez Flammarion. Stella Barouk, professeure de maths, chercheuse en pédagogie des mathématiques. Vous publiez, quant à vous, Les chiffres, même pas peur, aux éditions PUF. Stéphane Seret, professeur des universités, président de la Société mathématique de France, avec nous depuis les studios de France Bleu Gironde. Alors jusque-là, on a entendu des voisins traumatisés par les mathématiques, mais tout le monde n'est pas terrorisé ou écœuré. Certains, même très jeunes, adorent cette matière, comme cette trentaine de collégiens âgés de 11 à 14 ans. Cerise Maréchaux, notre reporter, leur a tendu le micro, sans trop en les perturber, en plein stage d'initiation aux mathématiques de compétition, un stage organisé en région parisienne par une association qui s'appelle Animat, que je pense vous connaissez autour de la table. L'idée de ce stage, donner la possibilité à des élèves déjà doués, souvent, d'explorer les maths bien au-delà de ce qu'ils apprennent en cours.
Je vais tracer la tangente plutôt à gamma, passant par B.
Je sais pas vraiment comment le dire, mais juste je trouve ça beau, moi. En plus, on était en géométrie, du coup, on avait une très belle figure. Toutes les couleurs, toutes les droites, hein. Des égalités qu'il fallait trouver grâce à des théorèmes, hein. Des choses bizarres, mais qui aboutissent à quelque chose qui a du sens. Je sais pas comment le décrire vraiment, mais c'est juste le fait qu'on peut trouver des réponses d'après d'anciennes connaissances.
Par le théorème de l'angle inscrit, le triangle BS'C, il est isocèle en S'.
Dans un temple grec, sur le devant, il faut avoir un nombre pair de colonnes. Et sur le côté le plus long, il faut avoir le double plus 1. C'est comme un petit code, on a découvert. Et quand on comprend, eh bien, on est heureux. En français, tout comme en mathématiques, en art ou en musique, c'est la façon de s'exprimer qui est jolie.
Les mathématiques, c'est une manière de s'exprimer?
Oui, c'est aussi une façon de... pas changer une réalité, mais l'écrire sous une autre façon.
Je vous demande de prouver que les angles BTM et BTN sont égaux. Autrement dit, que TB est la bisectrice de TM, de l'angle MTN.
Démontrer, c'est quand même un art. Enfin, c'est une sorte d'art. C'est joli quand on arrive à démontrer quelque chose et qu'il n'y a pas trop de nombres partout, de calculs énormes et de schémas incompréhensibles, que c'est assez clair et net.
Est-ce que quelqu'un a déjà vu la preuve de
ce pôle sud? Oui, mais c'est quoi le pôle sud? Et là, c'est bien parce que ça apporte des réponses. Parce qu'on se dit, on ne trouve pas, on cherche, et du coup, on trouve.
Légèreté et clarté.
Et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des... on peut tout prouver. C'est pas comme en français où on nous dit, ça, c'est bien, ok, bon, pourquoi?
On se pose tellement de questions et quand on a une réponse, eh bien, on avance.
Du coup, on va passer à l'exercice suivant. Du coup, le théorème du pôle sud.
Est-ce que tu fais des liens parfois entre les mathématiques et la vie réelle?
Bah oui, j'aime bien compter les trucs. Genre les carreaux par terre. Des fois, je regarde les plafonds, les carrés des plafonds, les lignes. Surtout les lignes qui sont pas placées logiquement sur les plafonds. Ça m'énerve beaucoup. D'ailleurs, là, sur le plafond, ils sont pas placées logiquement, les lignes. En fait, il y a des croisements qui sont les mêmes, il y a des croisements qui sont pas les mêmes.
Pourquoi t'aimerais mieux que ça soit logique?
Parce que ce serait plus joli. Mais des fois, je me dis aussi que ça part totalement dans tous les sens. Surtout quand il y a des trajectoires. Je lance des cartes en l'air et je calcule la trajectoire. Les règles, elles sont pas valables tout le temps. Et j'essaie après de trouver ce qui fait qu'elles changent. Enfin, par exemple, là, dans ce cas-là, l'inclinaison, ou la vitesse, la force. Genre, moi, ce que je voudrais être, c'est astrophysicien. Ou directeur de vol sur une fusée, ça peut être pas mal aussi.
Dominique?
J'ai pas compris la fin en fait, quand on a H-1, c'est l'inverse de H3.
L'inverse de H3, c'est-à-dire que on prend une homothétie qui a le même sens.
Je sais que déjà en CP, j'adorais ça, grâce à mes professeurs. ils étaient heureux d'être là.
Donc faut en fait
attends,
donc,
mais ISC déjà ISC on l'a.
Ouais,
bah, je crois attends.
ISC non, c'est attends, BSC attends, moins
attends. Alpha plus bêta. Du coup t'as 180 moins alpha moins bêta. Oh là. Oh non, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi.
Je m'en souviens une fois, ma mère m'avait raconté qu'ils avaient pris dans une classe, ils avaient formé un groupe de personnes qui ne comprenaient pas et qui avaient donc des cours de soutien ensemble. Et le professeur les encourageait à chaque fois, à chaque petite bonne réponse ou une étape de plus. Il leur disait bravo, excellent travail, des sourires, etc. Et ensuite, les élèves ont commencé à développer ce même comportement entre eux. Ils ont résolu tout un problème ensemble.
On peut essayer.
Et je trouve ça magnifique. Du coup, si le professeur nous apprend à aider les autres aussi, c'est ça qui pourrait tout changer.
C'est-à-dire X et Y négatifs, en fait, car Y, Z, c'est la même chose. Ils sont tous négatifs.
Ces élèves vivent pendant une semaine dans une ambiance 100% maths. Ils logent en internat pendant le temps de leur stage, ambiance à la fois studieuse et colonie de vacances pour rester immergés dans le vaste monde des mathématiques. Michael Launay, je vous ai vu sourire à l'écoute de ce reportage. À quel âge vous êtes passionné pour les mathématiques ?
Oui, quand j'avais leur âge, je faisais un peu des stages comme ça aussi qui me plaisaient beaucoup. Effectivement, quand on est passionné de maths, quand on a le goût et quand on sait voir ce qu'il y a dans les maths, forcément c'est passionnant. J'ai entendu pas mal de jeunes là, qui utilisaient les mots jolis et qui trouvent ça beau, les mathématiques, une notion d'élégance. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup en maths. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un des jeunes disait le but, ce n'est pas de faire beaucoup de calculs, ce n'est pas de faire des figures incompréhensibles. Ce qui est bien, c'est quand on cherche un problème, il y a un moment, on trouve l'astuce et tout s'éclaire. Et là, c'est toujours des grands moments en mathématiques.
Stéphane Serret, l'association Animat qui organise ces stages, promeut les mathématiques chez les jeunes à travers des olympiades, des promenades mathématiques, des ateliers, des rencontres de professionnels. À quoi bon mener ce type d'activité ?
Oui, alors il faut effectivement souligner le gros travail d'Animat. Alors à quoi bon ? C'est parce que je pense que les mathématiques ont un petit peu souffert de cette image d'outil de sélection dans la scolarité des élèves, alors qu'en réalité, comme Michael Launay l'a dit, comme les enfants l'ont dit, les mathématiques peuvent aussi peuvent créer des beaux objets. Mais il faut bien voir que les mathématiques, c'est au-delà de ces beaux objets, c'est un nombre de débouchés tout à fait impressionnants et de conséquences tout à fait impressionnantes sur notre vie au quotidien, en particulier dans un monde aujourd'hui qui est régi par le numérique, par les big data, etc.
Par exemple, concrètement, à quoi ça peut nous servir dans un monde numérique ?
Un exemple très simple, c'est Yves Meyer qui a obtenu le prix Abel en 2017, qui est une des grandes récompenses mathématiques, a développé la théorie des ondelettes, donc c'est une théorie mathématique tout à fait passionnante, qui a permis, qui est parmi les fondements des algorithmes qu'on utilise tous les jours, et des algorithmes qu'on appelle JPEG ou JPEG 2000 ou MPEG, qui permettent qui nous permettent de voir nos images sur nos téléphones, de pouvoir nous envoyer des images les uns les autres. Sans ces travaux-là, par exemple, nos ordinateurs, nos téléphones ne seraient pas les mêmes. Toutes ces conséquences, alors là je parle d'une conséquence parce que c'est quelque chose que je connais bien, mais il y en a des milliers, un téléphone contient des milliers d'algorithmes. Donc c'est important de mettre toutes ces choses en avant pour valoriser les formations mathématiques et surtout montrer à la fois l'utilité pour la société qu'on peut quantifier même en termes économiques, puisque des études sur l'impact des mathématiques, une étude sur l'impact des mathématiques, bon, je vais peut-être vous ennuyer un petit peu, mais c'est quand même important à montrer que à peu près 15% du PIB français et 9% des emplois étaient directement liés aux maths.
On comprend bien l'importance de cette discipline.
Voilà.
Et de ne pas décrocher dès l'école. Alors les maths peuvent même devenir un jeu et puis un objet de compétition. Nous sommes en ligne avec Eddy Neba Ibrahim Polno. C'est un jeune ivoirien, champion des Olympiades panafricaines de mathématiques à Rabat. Elles se sont tenues en juillet dernier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en terminale hein, actuellement, en série scientifique, bien sûr. Qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce que vous aimez dans les maths ?
Au niveau des maths, d'abord, c'est une discipline de travailleurs, d'abord, et c'est aussi joli de les gens. Parce qu'on fait les maths, d'abord, si on a un problème qui est très difficile, à force de réfléchir, une fois qu'on trouve la méthode, c'est comme une lumière qui jaillit dans notre esprit. Et donc, tout devient clair et c'est encore plus beau.
Une lumière qui jaillit dans votre esprit, c'est joli. Comment alors se sont déroulées ces Olympiades que vous avez remportées ? En quoi ça consiste ?
Les Olympiades elles-mêmes, bon, c'est comme un championnat de foot aussi. Seulement que c'est un sujet qu'on propose à tous les candidats. Et on compose, c'était pendant, on peut dire, la compétition s'est passée en 2 jours.
Avec 6 épreuves, hein ?
Pardon ?
Avec 6 épreuves.
Oui, on est parti 3 par jour, 4h30.
Des épreuves de géométrie, d'algèbre, d'analyse. Il faut, pour participer, être au lycée hein, et avoir moins de 20 ans. Alors comment vous vivez, vous, le fait d'avoir gagné ces Olympiades ?
Pardon, vous dites ?
Comment vous vivez le fait d'avoir gagné ces Olympiades ? Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été le champion ?
Bon, dans un premier temps, je suis content. Et comme je l'avais dit à Baptiste aussi, c'est un peu comme un piège. Parce que je suis un peu scellé dans un niveau où je suis obligé à travailler toujours et toujours. Et ça me motive encore davantage à être champion cette année encore.
Et vous vous destinez à faire des études mathématiques ?
Oui. Je compte faire par la grâce de Dieu une prépa MPSI.
Voilà. À vous spécialiser hein, là-dedans. Merci beaucoup Edine Eba Ibrahim Polno. Je rappelle que vous êtes le champion des Olympiades panafricaines de mathématiques qui se sont déroulées à Rabat cette année. Michael Launay, c'est important de mettre en place de telles compétitions de mathématiques, selon vous ?
Alors, c'est important parce qu'effectivement, il y a des jeunes qui ont besoin, qui sont passionnés de maths et qui ont besoin à un moment donné qu'on nourrisse cette passion. Et voilà, c'est très agréable d'entendre ces jeunes d'Animat, d'entendre effectivement que toutes ces personnes vont pouvoir, là, quand on parlait de l'étincelle dans l'esprit, à un moment donné, la jubilation à faire des maths. Mais par contre, il ne faut pas oublier non plus à côté ceux qui ne sont pas passionnés de maths. Et parce que voilà, là il a gagné, mais pour qu'il y ait des gagnants, il faut aussi qu'il y ait des perdants à un moment donné. Et il ne faut pas oublier ceux, moi j'aimais beaucoup voilà, participer aussi à des compétitions de maths quand j'étais plus jeune, mais il ne faut pas oublier, je crois, ceux qui sont moins bons en maths, qui ne vont pas participer à ces compétitions, qui ne vont pas faire des grands stages pour se préparer aux Olympiades, mais qui eux aussi peuvent prendre du plaisir à faire des maths à leur niveau, sans forcément voilà, être les meilleurs. Et donc, les compétitions, c'est bien à un certain niveau, mais il ne faut pas non plus surreprésenter les compétitions et qui en est pour tout le monde.
Alors vous-même, avec votre chaîne YouTube Mic Math, vous vous échinez à vulgariser cette discipline. Vous êtes comme un YouTuber classique, face caméra, avec aussi des chiffres et puis du texte qui s'affiche à l'écran comme sur un tableau. Je vous propose d'écouter un petit mix de plusieurs vidéos.
On trouve des mathématiques partout, dans les rythmes du jonglage, dans les constructions en origami, mais aussi dans les constructions géométriques, en architecture, dans les jeux de stratégie et même dans certains tours de magie. Alors laissez Pythagore prendre quelques vacances et pour faire des maths, venez sur MicMath. Si on compte sur une pomme de pin le nombre de spirales qui tournent dans un sens et le nombre de spirales qui tournent dans l'autre sens, eh bien on trouve deux nombres qui sont toujours des nombres consécutifs dans la suite mathématique de Fibonacci. Et ça marche aussi avec les ananas, avec les tournesols et avec la plupart des végétaux qui font des spirales. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de prochaines aventures mathématiques.
Alors vos vidéos, Michael Launay, dont on vient d'entendre plusieurs extraits, ont parfois jusqu'à 2 millions de vues. Ça, c'était pour une vidéo sur la face cachée des tables de multiplication. Vous abordez différents thèmes, en fait, différents objets mathématiques dans vos vidéos. À qui vous vous adressez ?
J'essaye de m'adresser au plus de gens possible. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, mes vidéos, ce n'est pas des vidéos pour apprendre à faire des maths. C'est-à-dire j'essaye plutôt de les montrer, de montrer pourquoi c'est beau, d'essayer d'intriguer les gens, de montrer des choses qui vont justement déclencher un peu des choses dans leur esprit, faire pétiller leur cerveau en disant « Oh, il se passe des choses et je comprends, il y a des jolies figures. » Mais voilà, quand on regarde mes vidéos, on ne sait pas résoudre une équation après. Et je pense que c'est important de faire ça parce que si on veut que des gens après rentrent plus en amont dans les mathématiques, et si on veut qu'il y ait des jeunes aussi qui vont après faire des études de maths, il faut commencer par voir l'intérêt, il faut commencer par donner du sens aux mathématiques, et voilà, c'est ce que j'essaye de faire. C'est un peu comme, si on fait une comparaison avec la musique, c'est comme si on allait à un concert. Quand on va voir un concert, on aime la musique, mais on ne sait pas jouer de la musique en sortant du concert. C'est ce que j'essaye de faire avec les maths.
Je vous propose une petite note de poésie, désormais, avec Daniel Tamé, écrivain autiste Asperger, passionné de mathématiques.
C'est une langue universelle, les mathématiques. Pour moi, les nombres avaient quelque chose de particulier, puisque enfant, je rêvais en nombre. Pour moi, chaque nombre a une couleur, une forme, une texture, ça s'appelle la synesthésie. Dans le cerveau, normalement, la partie consacrée aux couleurs et la partie consacrée aux mots, aux nombres, ne se parlent pas. Mais chez moi, ces parties-là se communiquent parfaitement. J'écrivais même les poèmes en chiffres.
En 2004, à Oxford, Daniel relève un défi insensé. Énumérer le plus de décimales possible du nombre pi. 5 heures plus tard, le record tombe. 22 514 décimales apprises par cœur et pas une erreur.
Daniel Tamé, qui nous contait les mathématiques tout en poésie, hein, je vais vous rendre jaloux, il est aussi doué pour les langues que pour les chiffres, puisqu'il parle 10 langues. Stella Barouk, ça vous inspire, cette poésie? Vous aussi, pour vous, il y a une vraie poésie dans les mathématiques?
Bien sûr, sinon je ne serais pas là. Il y a une poésie que je retrouve tout à fait chez les très jeunes enfants, précisément quand on leur apprend à écrire les nombres et qu'ils découvrent très simplement, si j'ose dire, l'idée d'infini. Hein. Je ne sais pas, je crois que c'est la seule discipline à partir de laquelle on peut imaginer un processus infini. Les régularités qu'ils trouvent dans les écritures, les régularités qu'ils trouvent dans les figures, tout ça, ça met en marche l'imagination. Et ça permet justement de leur proposer des grilles de lecture du monde. Parce que découvrir les mathématiques, ça ne se découvre pas tout seul, si j'ose dire. Il faut qu'il y ait un savoir préalable. Il faut qu'il y ait le concept de quelque chose pour arriver à le repérer dans la réalité. Et là, on touche à quelque chose de tout à fait essentiel qui est mon dada. C'est la fameuse relation entre concret et abstrait. Et j'ai très, très peur de ce qui se passe en ce moment, qui fait qu'on veut tout axer sur du concret et puis passer à l'abstrait.
Abstrait et ne pas se dire que les enfants, pour comprendre les chiffres, ont besoin qu'on les rattache à des réalités concrètes. C'est ça, hein ?
C'est-à-dire que ce qu'il faut, et encore une fois, c'est ce pourquoi je me bats depuis 4 décennies, c'est qu'on distingue ce qui est mathématique de ce qui ne l'est pas. 5 pommes, ce n'est pas un nombre, hein, c'est un nombre de pommes. Or, si on voit ce qu'on fait faire aux enfants et la manière dont ils réagissent à des problèmes, et dont très rapidement le sens disparaît pour eux, eh bien, c'est qu'on fait ces confusions-là. On fait des confusions entre quelque chose qui serait une idéalité, qui est le nombre, et quelque chose qui est du concret. On veut les faire manipuler pour apprendre la numération. Bon, je ne sais pas, moi, ça, c'est 10. Est-ce qu'il faut vraiment indéfiniment compter des nombres de trombones et puis mettre une ficelle à 10 trombones,
Les doigts suffisent, en fait, pour compter jusqu'à 10.
C'est pas ça. C'est que je veux dire, on a une langue qui est décimale parce que nous avons 10 doigts. Voilà. Ça, c'est le matériel largement à la fois nécessaire et suffisant pour comprendre ce qu'est la numération à base 10.
Et donc, après, on peut apprendre à compter avec les doigts, en fait. C'est ça que vous essayez de dire.
Avec.
7 milliards de voisins, on rend aux mathématiques leur lettre de noblesse aujourd'hui. Et tout de suite, on accueille un voisin.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin. 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins sur RFI.
Et le standard croule sous les appels. Nous sommes en ligne avec Constant à Lomé, au Togo. Bonjour Constant.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Constant.
Oui, je disais tantôt, la peur des maths, elle a plusieurs sources. Premièrement, c'est les préjugés qu'on entend. Quand on quitte de la maternelle pour passer en sixième, il y a généralement un changement dans les exercices. Vous entendez parler d'algèbre et puis de géométrie. Et l'autre source, nous avons aussi la méthode de l'enseignant. Il y a des méthodes qui ne permettent pas à l'étudiant de suivre et de se reconnaître dans les mathématiques qu'il en faisait depuis la classe, depuis la maternelle, quoi. Et du coup, l'étudiant tombe dans une peur infinie de ne jamais réussir des exercices de mathématiques. Mmh. Mais j'en parle parce que, j'ai commencé par avoir peur des mathématiques en classe de cinquième. Et du coup, je les ai négligés. Et quand j'allais au devoir de mathématiques, je me disais, je vais juste pour éviter un zéro. Comme quoi, je sais que je vais pallier la note avec une autre matière. Mmh. Et donc, je pense que il faudrait que les professeurs adoptent des méthodologies d'enseignement participatif et où on implique beaucoup plus d'étudiants, on est disponible et un peu plus concret, quoi.
Merci Constant pour ce témoignage. Stéphane Serret, effectivement, la question de l'enseignement des mathématiques pose question. Comment, selon vous, faudrait-il mieux enseigner les mathématiques ?
Alors, c'est une vaste question. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a un certain problème avec la formation en mathématiques qui est attesté par les études internationales qu'on a vues en décembre dernier, qui montrent que les étudiants français réagissent de façon pas tout à fait satisfaisante face aux problèmes mathématiques. La formation dans son ensemble doit être repensée. C'est aussi une des missions, je crois, du plan mathématique que vous mentionniez tout à l'heure, Torossian-Villani. Que faut-il faire ? C'est difficile d'y répondre en quelques minutes ici. En tout cas, ce qui est important, c'est de faire aimer les mathématiques. Et ça, dès le plus jeune âge. Et ça passe par une formation tout à fait importante, enfin, et à conforter des enseignants aux primaires qui doivent transmettre cet amour des mathématiques, et un peu comme le disait Stella Barou, qui effectivement aussi cette capacité à voir les mathématiques comme un outil qu'on peut appliquer à différentes situations. Et donc, à travers... Il y a plein de méthodes. Les gens parlent beaucoup de la méthode de Singapour.
Parce que Singapour est très réputé pour ses résultats mathématiques.
Aura un avis sur ça. Mais en particulier, cette méthode-là, mais comme d'autres méthodes, privilégie beaucoup tout d'abord la manipulation d'objets pour que les élèves puissent appréhender par eux-mêmes différentes situations dans lesquelles, finalement, le raisonnement qu'ils doivent faire pour aboutir à une solution est le même. Et à partir de là, on en construit une modélisation puis une abstraction. Il y a un peu une décomposition des étapes, mais qui permet à la fin aux élèves, finalement, de maîtriser tous ces concepts-là. Je pense que c'est quelque chose qui peut être appliqué à peu près à tous les niveaux.
Alors, il y a une question que nous aimerions aborder avant la fin de cette émission, c'est celle aussi du rapport entre filles et mathématiques. Nous sommes en ligne avec une voisine, Mireille, qui est à Cotonou, au Bénin. Bonjour Mireille.
Bonjour Charlie.
On vous écoute.
Au Bénin, à African School of Economics, le professeur Léonard Manticon a initié un projet de recherche intitulé « Projet de la filière mathématique, en particulier chez les filles au Bénin ». En quoi consiste ce projet ? C'est d'animer des cours de travaux dirigés aux élèves de la 6e et de la 3e. Pourquoi animer ? On a constaté que les élèves n'aiment plus la mathématique, surtout les filles. Donc, on aimerait leur donner un goût de la mathématique, les aider à choisir les séries littéraires et au finish, choisir les métiers dits d'hommes, dont les métiers scientifiques. On a formé 85 enseignants missionnaires qui sont déployés dans les établissements scolaires ruraux. Ils sont appelés les enseignants missionnaires et puis ils dispensent des cours de travaux dirigés aux élèves de la 6e et puis de la 3e. Ils ont 14 heures de cours à faire par semaine. Et puis, à chaque séance, ils font des interrogations juste pour jauger le niveau des élèves. Cela permettrait aux élèves d'avoir le goût de la mathématique, d'aimer correctement la mathématique, d'avoir de bonnes notes en mathématiques et de passer aussi en année supérieure et aux examens aussi.
Merci, merci Mireille pour ce témoignage et puis bravo hein, pour ce que vous faites pour promouvoir les mathématiques, notamment du côté des filles. Mickaël Launay, on arrive à la fin de cette émission. On imagine qu'il faut plus d'initiatives comme celle-ci pour promouvoir les mathématiques à tous les échelons.
Oui, c'est vraiment essentiel de promouvoir les mathématiques pour les filles. En France, il y a une association qui s'appelle Femmes et Mathématiques qui fait un boulot formidable justement pour promouvoir, parce que on voit les préjugés qui naissent dès l'école primaire et puis qui s'amplifient au collège, au lycée et voilà. Et les filles.
L'idée que les filles ne sont pas bonnes en mathématiques en particulier,
voilà,
et qu'elles intériorisent.
Et même quand elles sont bonnes en maths, eh bien, elles ne vont pas vers les filières scientifiques parce qu'elles sous-estiment leurs capacités. Donc voilà, il faut travailler là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un problème qui est difficile parce que c'est quelque chose qui est très ancré dans nos sociétés. Et donc voilà, il ne suffit pas de le dire pour avoir tout de suite une solution immédiate. Il faut vraiment agir au quotidien avec les élèves, avec les professeurs.
Réconcilier les filles et les garçons avec les mathématiques. On pourrait encore débattre, palabrer sur ce sujet pendant des heures, mais néanmoins, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Mickaël Launay, Stella Barouk, d'être venu dans notre studio. Merci également à vous, Stéphane Seret, d'avoir été avec nous pendant toute la durée de cette émission depuis les studios de France Bleu Gironde, que l'on remercie encore. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Sophie Janin, Cécile Lavoloir, Tirtosou, Baptiste Madinier et puis Raphaël Lazizier. Et hommage à vous, bien sûr, les voisins et les voisines, pour votre écoute, pour vos messages et pour vos appels. Lundi, 7 milliards de voisins, quand travailler devient un enfer. Métier précaire, sous-payé, sous pression, à la chaîne, dans les usines ou dans des centres d'appel. À lundi, les voisins.